déjà un petit peu longtemps qu'on a parlé de la connaissance artistique au niveau symbolique, hein, je crois que c'était ça. Intéressé à cette question-là. Il y aurait des quantités de choses à dire sur la connaissance symbolique. Hein. C'est difficile à bien préciser exactement ce que représente cette connaissance symbolique comparativement à la connaissance spéculative. Vous voyez, au point de vue critique, on a beaucoup développé toute la question du verbe, toute la question des formes intentionnelles. On a très peu développé du côté affectif, ce que représente le secret, et on a très peu développé du côté de la connaissance artistique, ce que représente la connaissance symbolique, de fait. Alors on s'est laissé dépasser par les autres, comme toujours. Les philosophes, les théologiens ont été paresseux. Alors il s'est développé des quantités de théories au niveau de la connaissance symbolique, au niveau de la connaissance mythique. Je vous renvoie par exemple à Ricoeur. Ricoeur est sûrement un de ceux qui ont travaillé le plus la connaissance symbolique et la connaissance mythique, ce qui est le plus facile pour nous à atteindre. Mais évidemment, on sent très bien que c'est dans une perspective phénoménologique et pas du tout d'une philosophie réaliste. Alors, c'est pas commode à bien saisir. Alors, je crois qu'il faudrait aujourd'hui reprendre dans une perspective d'une philosophie qui regarde la réalité, comprendre ce que représente cette connaissance symbolique à la différence de la connaissance spéculative, à la différence de la connaissance affective, à la différence d'une connaissance utilitaire. Parce que, de fait, notre langage a des caractères différents selon notre manière de regarder la réalité, d'atteindre la réalité. Nous ne l'atteignons pas toujours de la même façon. Donc, il est important de saisir ces diverses modalités d'une connaissance. Alors, nous avions déjà un tout petit peu touché cette connaissance symbolique. Je vais y revenir, pas très longtemps, parce que c'est très difficile. C'est à la fois la connaissance première et dernière. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette connaissance symbolique? Je vous avais dit, c'est le point de vue de la signification et de la représentation. Je crois qu'en effet, que c'est bien cela qui donne le caractère propre à la connaissance symbolique. La connaissance spéculative est une connaissance qui implique une signification. L'image, c'est la représentation. Il faut comprendre que dans le symbole, les deux sont intimement liés. Vous ne pouvez pas ramener le symbole à la représentation. Vous ne pouvez pas réduire le symbole à la signification. Le symbole est à la fois signification et représentation. Par le point de vue signification, le symbole porte en lui le point de vue de la connaissance intellectuelle. Le symbole a une valeur universelle. Et donc, il a une valeur symbolique. Et il veut dire, il a une valeur de signification. Mais le symbole, en même temps, est une présence. Et une présence parce qu'il a un caractère individuel. Il a un caractère spécial. Et en ce sens-là, le symbole est une présence. Vrai, c'est toute la différence entre la connaissance spéculative qui est purement de l'ordre de la signification et qui n'implique aucune présence. Tandis que le symbole implique une présence. C'est lié donc à la représentation imaginative. Et c'est, je crois, le lien très profond des deux qui fait comprendre ce que représente la connaissance symbolique. Si vous avez des questions là-dessus, vous les noterez, parce que c'est quand même un problème très important et très intéressant à voir. C'est une mixture des deux. Comme toujours, quand c'est une mixture, on a par le fait même toute une gamme du symbole plus représentatif, qui serait la connaissance symbolique plus romantique, et le symbole plus classique, qui est beaucoup plus du côté de la signification. Il faut expliquer ça, il faut expliquer toute la gamme des symboles. Et de plus, il faut ajouter que dans le symbole, il y a une valeur affective. Parce qu'on ne peut pas nier que le symbole est beaucoup plus lié à l'affectivité que la connaissance spéculative. La connaissance, le verbe comme tel, n'a pas grand-chose d'affectif. La connaissance spéculative, hein, quand vous regardez les prédicaments, c'est très affectif. N'est-ce pas ? Les prédicaments, la qualité, la quantité, là, c'est très, très, c'est tout à fait porteur d'affectivité. C'est tout à fait au niveau proprement de l'universel univoque. Et quand vous regardez les transcendentaux, ce n'est pas non plus très affectif. Ce sont des rationnels. Vous pouvez en faire un gargarisme spéculatif, mais ce n'est pas très affectif. Tandis que la connaissance symbolique est toujours affective. Alors il serait intéressant de voir comment, dans une connaissance symbolique, il y a quand même quelque chose d'énigmatique. Est-ce que toute connaissance symbolique n'est-elle pas un peu énigmatique ? Alors quelquefois c'est poussé à l'extrême. Ça devient tellement énigmatique que personne n'y comprend rien. Bon, c'est vrai. Et vous cachez de cette manière un secret. Alors, la connaissance symbolique n'est pas un secret, puisque c'est une manifestation, c'est une expression. Mais il y a quelque chose d'affectif dans la connaissance symbolique qui peut devenir un secret. C'est pour ça que le langage divin étant un langage symbolique cache toujours un secret. Dans toute parole de Dieu, il y a un secret. Dans toute parole de Dieu, il y a un secret qui est à travers cette connaissance symbolique. Et on comprend très bien que cette connaissance symbolique divine est beaucoup plus affective que le symbole habituel parce que justement, c'est une révélation d'un amour. Toute la révélation est une grande lettre d'amour, hein, de Dieu pour l'humanité et de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors comme c'est une grande lettre d'amour, ce langage symbolique cache un secret. Et le langage de la parabole de ce matin cache un secret, c'est évident. Et Dieu parle, Jésus prend un langage symbolique. C'est une parabole, c'est symbolique. C'est pas un mythe, c'est un langage symbolique. C'est pas une allégorie, c'est un langage symbolique. On se sert de quelque chose de particulier, d'une réalité vivante, une réalité représentative. C'est extrêmement représentatif de voir Lazare et de voir le riche, on le voit, hein, l'un en enfer et l'autre dans les délices du paradis, hein, ça se voit tout de suite, ça. Donc c'est très représentatif, c'est une signification et il y a un secret. Alors je crois qu'on peut dire que dans toute connaissance symbolique, vous retrouvez le point de vue de la signification, le quelque chose d'universel, le point de vue de la représentation qui donne une présence, et un point de vue énigmatique, secret, qui fait que tout symbole a comme une écorce, et dedans, il y a quelque chose que nous devons découvrir, la moelle du symbole, disons, qui est quelque chose de beaucoup plus secret. Il me semble que c'est ces trois aspects qui sont unis dans toute connaissance symbolique. Et c'est comme ça que nous devrions signification, représentation et puis un secret. Vous avez donc là, et ce qui est assez normal, vous avez donc là le point de vue de la connaissance intellectuelle. Toute connaissance intellectuelle implique quelque chose de l'appréhension. Une connaissance représentative, c'est l'imaginaire. L'imaginaire implique au point de vue de la représentation, l'image, et un secret, c'est le côté affectif. Alors, pouvons-nous donner un ordre ? Puisqu'il y a les trois. Et c'est normal qu'il y a les trois, puisque la connaissance symbolique se présente à moi comme le premier type de la connaissance humaine. La connaissance humaine est de fait une connaissance symbolique. Je crois. Un enfant vit une connaissance symbolique. Ce n'est pas une connaissance spéculative. Ce n'est pas uniquement une connaissance affective. Et ce n'est pas uniquement imaginaire. C'est très vite un symbole. Vous voyez ce que dit Jung là-dessus. Tout l'aspect de Jung montre combien il y a un arrière-fond en nous de connaissances symboliques. Nous portons tous en nous des archétypes. Des archétypes très particuliers, chacun d'entre nous. Alors, il faudrait savoir si les archétypes que donne Jung sont vraiment les seuls archétypes qui sont en nous. Mais c'est intéressant de voir ça. Et de voir si, de fait, vous voyez, quelqu'un qui naît en Afrique et quelqu'un qui naît en Europe, est-ce que les archétypes sont les mêmes? Ça serait très intéressant. Il y aurait une ouverture de l'intelligence profonde pour voir si dans le fond de l'Afrique on a des archétypes différents et du côté Europe on a des mêmes, ou du côté de la Chine. On aurait des archétypes différents. Ce que je croirais assez volontiers, parce que cette connaissance symbolique, vous voyez, elle est dans un milieu, elle est née dans un milieu. Dans le milieu familial, et le milieu familial, mais dans une culture. Et au fond de toute culture, il y a ces archétypes. Alors, il y a l'archétype du sorcier. Ça joue sûrement l'archétype du serpent. Non, l'archétype du serpent. Il y a quelque chose de très, très radical en nous, lié au serpent. Est-ce que c'est lié à la première faute? Il y a une espèce de vieille vengeance contre votre grand-mère qui s'est laissée mordre par le serpent. Alors c'est quelque chose qui demeure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure en nous qui fait que le serpent demeure quelque chose? Le dragon. Il y a des archétypes comme ça, différents. Ce serait très intéressant à voir. Au fond, ça a été un peu étudié, mais pas tellement. Voir comment. Ce qui serait intéressant, c'est philosophiquement d'étudier comment cette connaissance symbolique première s'enracine dans toute une culture, c'est impossible autrement. Et quelle est première? Alors, si elle est première, on comprend très bien. La première éveil de l'intelligence, de la connaissance intellectuelle, se fait à travers l'image et se fait dans un noyau affectif. Nous avons donc bien ces trois ordres. Là, c'est le noyau, la signification fondamentale de l'archétype, du symbole que nous portons en nous. Il y a une signification. Cette signification est liée à une représentation, à une image, et elle est enveloppée d'un halo de secret qui peut être lié à un aspect religieux, très souvent. C'est un aspect religieux. Et c'est en ce sens-là que par là, vous voyez, on pourra comprendre comment le symbole va pouvoir être lié au mythe. C'est par le point de vue religieux que va être lié au point de vue mythe. Et par le point de vue aussi de la signification. Il y aura les deux. Donc, je crois qu'on peut dire que dans tout symbole, ce que ne dit pas Ricoeur, ça, parce qu'il étudie le symbole uniquement comme... Moi, je l'étudie ici au point de vue philosophique. Au point de vue philosophique, je sais que la connaissance symbolique est une connaissance complexe, une connaissance primitive qui traduit très très fort le conditionnement de la connaissance humaine. Ma connaissance intellectuelle naît à travers l'imagination et à travers un halo affectif. Ça, je peux le dire immédiatement. Donc, je peux dire que ma connaissance intellectuelle va être tout de suite une connaissance symbolique impliquant ces différents aspects. Mais ces différents aspects, comme toujours, puisqu'il y en a trois, sont très différents les uns des autres. Les symboles religieux sont sûrement beaucoup plus affectifs. Les symboles, et ce sont, je crois que ce sont les premiers, au moins quand il s'agit d'une culture qui est encore religieuse. Je ne sais pas, dans la connaissance d'un petit bonhomme qui naît, ou d'une petite bonne femme qui naît dans un milieu purement positiviste. Hein, ce que Rostand disait toujours. Très bien. Rostand disait, mon premier milieu familial a été positiviste. Mon milieu familial a été positiviste. Il reste en moi certaines choses que je n'accepte pas à cause de ça.
et penser qu'il n'arrivait pas à découvrir l'existence de Dieu à cause de cela. Alors vous avez à ce moment-là comme des oppositions à une attitude religieuse. Il peut très bien se faire ça. Il peut très bien y avoir un milieu en religieux, qui est encore un milieu religieux, d'opposition. Vous voyez ? Fais attention aux faits. Fais attention à toutes les choses qu'on raconte, qui sont des vieilles choses, de vieux sorciers. Le prêtre qui était le vieux sorcier, surtout s'écarter de ça. Non, c'est un milieu positiviste qui peut être quelque chose d'art religieux ou anti-religieux. Le milieu anti-religieux peut être quelque chose encore de très religieux, affectivement. Les a priori affectifs positifs du côté religieux, ou... Alors ça, ce serait intéressant de voir, à côté des idéologies athées, les vieux restes, ce serait Jung, les vieux restes archétypes, les anti-religieux présents, qui empêchent un dépassement et qui vous remet dans une attitude alors d'immanence complète de la signification et de la représentation. Alors que lorsque c'est un secret, ça vous emmène vers quelque chose qui est l'autre. C'est religieux. N'oublions pas que c'est par l'affectivité qu'on est le plus immédiatement relié au transcendant. C'est par l'affectivité qu'il y a un lien quasi direct entre notre âme spirituelle dans le milieu affectif et Dieu. Un appétit de bonheur. Un appétit de bonheur, c'est un appétit de bonheur de rencontrer l'autre, puisque c'est l'autre qui doit rencontrer. Si ce point de vue est coupé dans une attitude anti-religieuse et dans un milieu anti-religieux, il y aura juste l'inverse. C'est qu'on ne pourra plus rejoindre l'autre et on s'enfermera dans l'immanence. Alors, à partir de là, est-ce qu'il serait possible, je pose la question parce que c'est des questions difficiles, est-ce qu'à partir de là, il serait possible de discerner des symboles religieux ouverts au transcendant et des symboles, vous voyez, religieux, anti-religieux, qui s'opposent au transcendant. Les deux aspects. Ce serait assez normal de découvrir cela. Et dans Jung, on pourrait peut-être discerner cela. Parce que comme c'est un de ceux qui ont pu étudier ces archétypes premiers, ces symboles premiers que nous portons en nous. Il y a quelque chose de juste, mais encore une fois, il n'y a pas de regard philosophique du tout sur cette analyse. Et les philosophes n'étudient pas beaucoup cela. Au fond, le seul philosophe qui s'est intéressé à toutes ces questions-là, c'est Ricoeur, c'est son mérite. Mais ça reste limité parce que c'est dans une perspective hémologique. Ça demandait d'être repris dans une perspective proprement philosophique et de philosophie réaliste. D'essayer de comprendre comment, de fait, ce halo affectif, par où le symbole devient un secret, ça nous permettrait. Alors, ceci nous permettrait de comprendre aussi, parce que c'est toujours ce que nous essayons de saisir, nous essayons de saisir le berceau de notre intelligence par la connaissance symbolique. Comment notre intelligence naît dans le symbole, dans une connaissance symbolique, et d'une certaine manière au terme, ça, je vous l'avais dit, les écrits de Saint Jean de la Croix, par exemple, ou les écrits d'une théologie mystique. C'est ce qu'il y a d'ultime, ce qu'il y a de dernier. Et au fond, nous retrouvons toute une grande symbolique dans Saint Jean de la Croix. Et nous retrouvons tout un langage symbolique. Ce n'est pas un langage de théologie scientifique. C'est un langage symbolique que nous retrouvons dans Saint Jean de la Croix. Comme dans l'écriture. Dans l'écriture, il y a un langage symbolique. Donc, la théologie mystique revient à l'écriture pour redécouvrir ses symboles les plus profonds. Vous voyez ? Et alors là, on retrouverait le principe d'herméneutique des pères de l'Église, de Denis, qui dit « Chaque fois que l'Esprit Saint veut nous communiquer un secret plus profond, il emploie un symbolisme plus grossier. » C'est très très joli comme principe d'herméneutique. Ça, vous ne le trouvez pas dans l'herméneutique d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mais c'est très très beau comme chose. Et je crois que c'est très profond. Parce que chaque fois qu'on veut communiquer un secret, on emploie un symbolisme plus grossier. Les symboliques plus grossiers, qu'est-ce que ça veut dire? Un symbolique plus primitif, pas grossier.
dans le sens d'un langage grossier, vous comprenez bien. C'est pas ça du tout. Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Il suffit qu'ils soient, qu'ils retombent à l'état d'un gagatisme pour qu'immédiatement on retrouve tout leur langage grossier. Tu vois, ça peut exister. Ça peut exister parce qu'il y a, quand même en nous un fond très gaulois. Hein. Alors ça peut arriver. Et ça se trouve dans le premier moment de l'ivresse. Vous voyez, le premier moment de l'ivresse. Il y a des vins cuits et des vins qui ne sont pas précisément cuits. Bon, ça se trouve tout de suite, ça on le voit tout de suite. Et si le curé est en présence de quelqu'un qui est dans l'état d'ivresse, moi j'ai fait cet exemple, cette expérience constamment en Suisse. Hein, c'était très curieux. Quand on prenait les trains du soir, hein, les trains du soir, Genève, Lausanne, Fribourg, où pratiquement la seule compagnie qu'on avait, c'était des gens un peu éméchés, hein, très éméchés. Alors le fait de se trouver devant un curé, immédiatement, c'est un sérum de vérité. Immédiatement, vous trouviez alors. Vous aviez vraiment des gens ivresse pieuse. C'était très intéressant d'écouter leur confession. Et leur langage. Et puis vous aviez les autres en opposition violente. C'est très curieux. Il n'y a plus de nuance à ce moment-là. Vous voyez, ça, c'est le langage symbolique. C'est très curieux. Et ça revient, parce que ça revient assez vite. Bon, alors, c'est le fait religieux ou anti-religieux. Et ça, c'est le nœud affectif qui enveloppe tout le point de vue symbolique. Alors, vous retrouvez, vous voyez, dans le langage théologie mystique à partir de l'écriture, ce serait toute l'étude des grands symbolismes de Dieu, de l'écriture. Et d'étudier dans ces symbolismes les symbolismes les plus primitifs. Dans les symbolismes les plus primitifs, qui touchent donc ce qui, dans la connaissance symbolique, a de plus fondamental, les plus enveloppés d'affectivité. Et les symbolismes, au contraire, beaucoup plus étudiés, beaucoup plus élaborés, qui sont par le fait même moins affectifs. Sont déjà beaucoup plus élaborés. Et je crois qu'on peut avoir la clé au point de vue philosophique quand vous étudiez ces trois aspects de la connaissance symbolique. Parce que vous avez tout de suite ces trois aspects qui vous montrent l'enveloppe religieuse affective, donc qui vous relie toujours à quelque chose de fondamental et de premier. Notre premier amour à l'égard de Dieu. Cette chose tout à fait première et fondamentale. Et ensuite l'aspect représentation et l'aspect signification qui vient dessus. Donc les trois aspects sous lesquels je peux étudier cette diversité de la connaissance symbolique. Je vous dis dans tous les domaines où la connaissance symbolique existe, donc au point de départ et au terme. Regardez dans Saint Jean de la Croix l'importance de certains symbolismes. Regardez dans le Cantique des Cantiques. Un langage extraordinairement symbolique. Et dans le Cantique des Cantiques, ce langage symbolique veut exprimer justement le lien de l'âme avec son Dieu, le lien de Marie avec le Christ, pouvons dire ça pour nous, et qui montre le lien de notre âme avec Dieu, dans ce qu'il a de plus profond, de plus aimant. Et alors à ce moment-là, le langage symbolique est nécessaire. Parce que ce n'est pas le point de vue de la connaissance scientifique qui permet. Vous pourriez regarder toute la grande symbolique de l'amour à travers toute l'écriture. Les grands symboles de l'amour. Vous voyez, c'est des choses importantes de comprendre que, de fait, notre connaissance intellectuelle naît dans la connaissance symbolique. Elle naît dans cette connaissance symbolique, donc en dépendance du culture. Alors, c'est là où il faudrait regarder aussi l'herméneutique. L'herméneutique naît, il ne faut pas l'oublier au plan philosophique, elle naît pour interpréter une connaissance symbolique. L'herméneutique moderne, elle naît pour interpréter une connaissance symbolique, c'est-à-dire
pour essayer de découvrir dans une connaissance symbolique son noyau de signification. La signification qui est impliquée du temps. Et la manière dont Heidegger, par exemple, regarde le sphinx d'Égypte pour essayer d'en découvrir le point de vue de la signification. Il y a le noyau affectif religieux qui est lié à la culture, culture religieuse dans laquelle il y a la représentation symbolique et puis il y a la signification. Et alors l'herméneutique, vous voyez, c'est de découvrir cette signification. C'est cela, je crois, qu'il faut comprendre en premier lieu dans l'herméneutique. Là, elle est valable. Il y a une herméneutique du symbole. Ça, c'est bien évident. Il y a des quantités de symboles qui sont restés complètement, qui restent énigmatiques. Je connaissais quelqu'un qui connaît très bien l'Inde, au point de vue religieux, qui a étudié ça de très près, et qui me dit que des quantités de gestes liturgiques ont perdu leur signification. On continue de les faire au point de vue des rites. Même écrit un livre là-dessus, sur les rites. Et là, elle a interrogé normalement, elle a vécu longuement là-bas, essayant de comprendre. Il vient constamment, devant certains rites, on faisait certains rites, et on ne sait plus la signification. Mais c'est le point de vue de la représentation qui reste, et on ne sait plus la signification. On a perdu la signification profonde. Enfin, pour nous, c'est constamment comme ça. On l'apprend petit à petit, mais enfin, la signification de la liturgie. Beaucoup l'ignorent complètement. Beaucoup. C'est pour ça que ça se perd de temps en temps. Pourquoi on allume le cierge à la messe? Pourquoi l'eau au milieu du lavabo? Des choses comme ça. Le symbolisme, vous voyez, de certains gestes dont on perd la signification. Alors c'est un rite dont on perd la signification. Et c'est pourtant tout symbole, alors à ce moment-là, le symbole se matérialise. Dès qu'il n'y a plus de signification, il perd sa qualité intellectuelle. Il garde sa valeur affective, il peut très bien garder sa valeur affective, mais il perd son point de vue, si vous voulez, son point de vue profond, qui est le point de vue d'intelligence. Mais je crois que c'est intéressant de voir que l'herméneutique est d'abord et en premier lieu attaché à la connaissance symbolique. C'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une certaine herméneutique par rapport à la parole de Dieu. On comprend dans la mesure où la parole de Dieu est symbolique. Il y a une certaine herméneutique. Mais comme la parole de Dieu est donnée aux croyants, alors à ce moment-là, on comprend, puisqu'elle implique une inspiration divine, on comprend comment l'herméneute doit être lui-même inspiré. C'est ce qui est dit dans le livre de Daniel. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le grand livre de l'inspiration de Daniel. Eh bien, vous voyez que seul l'homme inspiré peut être un herméneute. Ça, c'est très très loin. Vous voyez ? Alors, quand vous donnez une méthode herméneutique, c'est pour remplacer l'herzas de l'inspiration. Comme les théologiens ne sont plus assez inspirés, alors ils prennent une méthode herméneutique. Mais au fond, il n'y a pas de méthode herméneutique au sens rigoureux, puisque ça doit être une interprétation de quelque chose de symbolique. On le sait très bien, du reste, remarquez, que c'est déjà vrai au point de vue humain. Quelqu'un qui n'a aucun sens de la poésie et qui sait interpréter la poésie, vous voyez ce que ça fait? Il est très instruit, très très instruit, il connaît parfaitement le milieu au point de vue culture, historique, parfaitement. Mais il n'a aucun sens poétique. Et il sait interpréter. Des erreurs énormes. C'est la même chose pour la peinture. Tout art implique une herméneutique. Ça implique nécessairement une certaine explication. Parce que c'est quand même quelque chose qui reste caché, qui implique une explication. Parce que l'herméneutique, ça veut dire autre chose. Hein. Interprétation. Implique une interprétation. Alors, a fortiori, quand il s'agit du domaine divin. Parce que dans le domaine divin, ça implique une inspiration divine, que seul le croyant comprend. Alors ramener l'herméneutique à une méthode, alors que de fait l'inspiration est une inspiration de foi, il faut dire que seul le croyant peut être un herméneute. Celui qui reçoit l'inspiration et qui vit de l'inspiration. Et c'est en ce sens-là que la tradition au très grand sens, qui garde la parole de Dieu, c'est le lieu de l'herméneutique. Par excellence, c'est le lieu de l'herméneutique. C'est là où, de fait, nous devons découvrir la véritable interprétation. Parce que nous avons les saints qui, eux, vivent de la foi et donc comprennent de mieux l'inspiration et donc donneront la meilleure interprétation. C'est pour ça que la tradition est le lieu d'herméneutique. Mais comme, justement, le protestantisme supprime la tradition, il ne faut pas l'oublier, par le fait même, l'herméneutique se sépare de la tradition et devient une méthode. Et on comprend très bien. Et ceci, il faut revenir à la connaissance symbolique pour comprendre ce que c'est que... C'est pour ça que la tradition est le lieu d'herméneutique. Mais comme justement le protestantisme supprime la tradition, il ne faut pas l'oublier, par le fait même, l'herméneutique se sépare de la tradition et devient une méthode. Et on comprend très bien. Et ceci, il faut revenir à la connaissance symbolique pour comprendre ce que c'est que l'herméneutique. Vous ne pouvez pas comprendre l'herméneutique en dehors de la connaissance symbolique. Et alors, dans la connaissance symbolique prise au point de départ, vous pouvez comprendre que, en effet, ce halo affectif, c'est que, à la fois, le symbole est un secret et manifeste le secret. Mais quand il n'y a plus le halo affectif, ça devient quelque chose qui est très énigmatique et que vous ne comprenez plus. Tandis que grâce à ce halo affectif, vous pouvez comprendre ce qui est transmis à travers cette connaissance symbolique. Vous voyez d'autre part aussi que cette connaissance symbolique qui est complexe, c'est vrai, elle est complexe et elle implique tout un milieu de vie. Il faut recréer un milieu pour qu'on comprenne certains savants. Autrement, on ne comprendra pas. Ça, c'est sûr. Il faut recréer un milieu. C'est pour pénétrer et adhérer pleinement à ce que représente cette connaissance symbolique. Vous voyez que par le fait même, cette connaissance symbolique prendra des modalités différentes suivant les différents arts. Il y a une symbolique de la poésie, il y a une symbolique de la musique, il y a une symbolique de la peinture, et ainsi de suite. Il y a des connaissances symboliques qui ont des modalités différentes, en fonction même de ce que représente cette connaissance poétique. Donc, je n'insiste pas plus là-dessus, mais je voulais au moins vous dire ça, parce qu'il n'y avait pas la signification, la représentation, et puis je n'avais pas insisté sur le troisième élément, le domaine affectif, le point de vue du secret, qui enveloppe toute la symbolique d'un aspect affectif. Et que c'est par là que je comprends la nécessité d'une herméneutique. Parce qu'autrement, je tomberais dans quelque chose de purement énigmatique. Et c'est vrai, il y a des choses qui deviennent énigmatiques progressivement. Puis alors, prendre les deux points extrêmes, c'est comme ça qu'on devrait l'étudier. On devrait étudier le point de départ de cette connaissance et le terme dans le point de vue de la connaissance mystique, Saint Jean de la Croix, puisque c'est sûrement le poète le plus, et dans l'Écriture, la connaissance symbolique de l'Apocalypse. L'Apocalypse est le livre par excellence de la connaissance symbolique. Parce que ça, à la fois, ça veut nous regarder le mystère de la très sainte Trinité, ça veut regarder le mystère de l'Église, ça veut regarder la fin du monde. Alors, on comprend que c'est le lieu par excellence de la connaissance symbolique. Et donc, c'est le lieu par excellence de l'herméneutique. Vous acceptez une herméneutique pour l'Apocalypse. Parce que c'est pas commode à comprendre. Alors, on comprend qu'il faut une certaine explication, certaine herméneutique. Mais vous voyez bien que l'Apocalypse n'a de sens que s'il y a ce halo affectif du retour du Christ. C'est celui qui vivra cette attente du Christ qui commencera à comprendre toute cette grande symbolique. Celui qui est complètement en dehors, complètement, il n'y comprendra rien du tout. C'est que l'autre qui comprend, parce qu'il entre dedans. Il y a une facilité d'entrer dedans.
Il s'agit maintenant de continuer notre enquête hein, sur les différents moments de la connaissance poétique. N'oubliez pas, je vous le rappelle, l'expérience qui aboutit à la contemplation, l'inspiration, et je vous dis, l'inspiration source d'une nouvelle connaissance. Nouvelle connaissance et une connaissance symbolique. Nous allons maintenant essayer de comprendre le passage de l'inspiration au choix créateur. C'est évidemment dans le choix créateur que la connaissance symbolique va se nouer. Et donc que nous pourrions parler dans le choix créateur, et je mets exprès choix créateur. Je ne dis pas la création artistique. J'aime mieux dire choix créateur. Comme je dis amour d'amitié et non pas amitié, je mets choix créateur pour bien comprendre que l'aspect de créateur, l'aspect de la création est au niveau du choix. La seule chose que nous pouvons créer, c'est justement dans l'ordre de l'élection à l'égard de ce que nous allons appeler. Alors, il s'agit de comprendre le passage entre l'inspiration et le choix créateur. Un passage très important et très curieux. Le choix, l'inspiration porte sur les possibles. Le choix créateur porte sur le nécessaire. Et c'est, je crois, cela qu'il faut essayer de saisir. Le choix créateur, on dit un choix créateur, est-ce que ce choix créateur est libre? Non, il s'impose. Un artiste n'a pas de choix créateur libre. C'est toute la différence entre la création de Dieu et la création de l'artiste. Plus le choix créateur est fort, plus il s'impose. Ça demandait à n'importe quel artiste, et vous-même, si vous en avez un peu l'expérience, vous voyez tout de suite que le choix créateur est une chose qui s'impose. Tant qu'il y a du flottement, j'en suis pas encore, oui. Ah, je pourrais faire ça, oui, vous voyez. Je peux faire l'un ou l'autre. Ça prouve que vous n'y êtes pas encore. Attendez, il va y avoir un moment où le choix créateur s'impose. Et vous demandez à l'artiste pourquoi il a fait ça plutôt que telle autre chose. Je n'en sais rien. Ça l'agace prodigieusement, vous lui posez la question. Il n'y a rien qui l'agace plus, parce que ça prouve que vous n'avez rien compris. Vous êtes un pur béotien qui ne comprend rien du tout, et qui croit que l'artiste a choisi délibérément, n'est-ce pas, comme l'âne de Buridan. Eh bien, pas du tout. L'artiste ne choisit pas. Il y a quelque chose qui s'impose à lui, d'une manière extraordinaire. C'est un choix. Mais c'est un choix créateur qui s'impose à lui comme une nécessité. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement. Tant qu'il n'est pas arrivé à ce niveau-là, il n'y a pas de choix créateur. Il y a une délibération, on peut toujours délibérer. On peut toujours secouer la machine. Mais il n'y a pas de choix créateur. Et c'est ça qu'il y a de si particulier dans l'activité artistique. Dans le domaine où on est inspiré, évidemment, il faut l'inspiration. S'il n'y a pas d'inspiration, vous comprenez très bien, vous copiez. Alors, vous avez une très grande information. Ah, j'ai découvert un nouveau document, tout va changer. Vous voyez ? Alors, vous restez dans l'ordre de l'information. Et dans l'ordre de l'information, ce n'est pas ça qui va vous faire choisir. Oui, vous pourrez, par rapport, vous savez, c'est par rapport à celui qui n'est pas un artiste et qui est un bon client, vous lui montrez tout ce que vous êtes capable de réaliser. Choisissez. N'est-ce pas ? C'est très vrai, ça, par rapport. Ça, c'est la clientèle. C'est très différent. Ça, c'est pas du tout le choix créateur. Une fois que la clientèle dira, voilà ce que je veux. Je veux telle chose. Très bien. Alors ça, il a choisi pour vous. Mais vous appliquez à ce moment-là. Il n'y a pas de choix créateur.
c'est ce que vous avez réalisé avant. Où il y a un choix créateur. Vous avez réalisé quelque chose d'original. Vous avez réalisé quelque chose d'unique. Et vous le réalisez pour vous. Et vous le réalisez à l'intérieur même de votre vie spéculative. Et c'est ce choix créateur que je regarde, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Parce qu'il peut très bien se faire le choix du client. Mais le choix du client n'est pas créateur. Par définition, le client n'est pas un créateur. Le client est celui qui paie. Non. On lui fait une œuvre pour qu'il paie bien. Non. Mais il n'est pas créateur. Tandis qu'ici, il s'agit du choix créateur. Alors, cette chose curieuse, hein, que Platon montre de cette manière, il montre ce passage de l'inspiration au choix créateur, il ne dit pas ça tout à fait comme je le dis, mais c'est impliqué. Il montre que c'est comme lorsqu'on secoue le blé, que le grain devient au centre et que tout le reste s'en va. Secouer. Très très joli comme image. Ça montre bien que l'essentiel, le nécessaire, l'essentiel, comme les grains qui s'unissent au centre, et puis toutes les plumes, toutes les choses secondaires vont s'en aller. Il y a quelque chose comme ça qui se fait. Il y a comme à l'intérieur de l'inspiration, un recueillement sur l'inspiration elle-même. L'inspiration devient quelque chose de beaucoup plus profond et il y a la chose essentielle qui demeure. L'image de Platon est très belle. Hein? Je crois que c'est vrai. Il montre qu'on secoue. C'est vrai, on secoue. Alors évidemment, comprenez-le bien, c'est symbolique. On va secouer l'inspiration, tu vois. Vous avez une inspiration ? Oh, demi-heure, vous secouez la tête. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Tu vois? C'est ayant l'inspiration, vous essayez de creuser. Les inspirations impliquent de multiples possibles. C'est de multiples possibles. Et puis tout d'un coup, en y réfléchissant, en vous recueillant, en vous intériorisant, quelque chose s'impose, qui était présent en acte dans l'inspiration, mais qui n'était pas nécessairement explicite. Quelque chose va s'expliciter. Ce quelque chose va être le noyau central de votre inspiration. Votre inspiration va donc se condenser, c'est vraiment le noyau, va se cristalliser. On peut prendre ces expressions différentes. Le noyau, la cristallisation de ce que représente l'inspiration. Et ça va se faire à l'intérieur même de l'inspiration. C'est pas extérieur. C'est à l'intérieur même de l'inspiration. C'est dans l'inspiration que se fait cette cristallisation. Mais ce n'est plus la première inspiration. L'inspiration est source. Source jaillissante. Là, c'est pas du tout la même chose. C'est un noyau qui se détache. C'est quelque chose de beaucoup plus précis qui va arriver à se préciser. Et ce noyau va se préciser et va s'imposer. C'est pour ça qu'on passe, ça c'est très curieux, très mystérieux, on passe du possible au nécessaire. C'est l'heure. C'est le nécessaire. Oui, ça c'est le possible. Alors, on passe du possible au nécessaire. Il faut voir comment, et c'est ce que nous essaierons de préciser la fois prochaine, comment pouvons-nous passer du possible au nécessaire? Vous voyez que c'est très curieux, parce que c'est toute la métaphysique de l'acte et du possible que nous trouvons là en premier lieu. Le possible que nous possédons en nous en premier lieu, puis on va passer au nécessaire. Le nécessaire, c'est toujours l'acte. Thank you.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
On m'a rappelé, c'est une simple petite remarque, que dans la salle ici, respecter le silence. Je dis pas ça, vous ne respectez pas, mais on a toujours peut-être envie, après le cours, de parler. Alors, je crois qu'il faut garder le silence. Et autant que possible, garder le silence, même en quittant la salle. Pour les frères, ça va de soi, mais pour ceux qui sont périphériques, n'est-ce pas ? Alors, garder aussi le silence le plus possible. Je crois que c'est mieux pour garder le climat. Vous passez du possible au nécessaire.